Radio Barque, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Barque, bonjour, c'est notre 15e de la saison, d'une 10e saison pour être exact, et nous recevons aujourd'hui comme invité Henri Martin, bonjour.
Bonjour.
Maire de Port-la-Nouvelle, depuis pas mal d'années, combien, quel mandat?
Depuis 95.
95, ça fait que vous êtes à quel mandat?
Une vingtaine d'années.
Voilà.
25.
Mais, des mandats de 6 ans, c'est quel numéro?
5 fois 6, ça fait 30. Disons que 4 fois 6, ça fera 24.
Voilà, vous ne comptez plus. Bon, et vous êtes également premier vice-président du Grand Narbonne, oui. Donc la communauté d'agglomération du Grand Narbonne. Et ce sont deux sujets qui vont nous tenir en haleine pendant ces trois parties. Et alors, le Grand Narbonne, bien entendu, mais la ville de Port-la-Nouvelle est appelée à un grand essor, qui est d'ailleurs en cours, hein, et on va parler évidemment de ces choses-là, à savoir un port en eau profonde, un port éolien, peut-être de la fabrication d'hydrogène, on verra quelle en sera la teneur et l'importance. Mais commençons peut-être par votre première vice-présidence du Grand Narbonne. Bon, on le sait, il y a eu des changements récemment. Bertrand Malky a pris la présidence de ce Grand Narbonne. Est-ce que ça a changé beaucoup de choses? C'est quelque chose qui fonctionne maintenant, je crois, l'agglomération, sur sa lancée.
Oui, absolument. Il faut dire que l'année donc 23 a été particulièrement douloureuse pour les,
bien entendu,
pour les élus du Grand Narbonne et pour tous ceux qui gravitaient autour de la structure qui était présidée par Didier Mouly, d'autant que celui-ci a été doublement frappé par tout d'abord la disparition brusque, brutale
de son épouse,
et quelques semaines après par un diagnostic qui était quand même très sérieux, puisqu'il a été atteint d'un cancer d'un poumon qui n'était pas opérable a priori et qu'il fallait donc traiter. Donc si vous voulez, on avait vécu à ses côtés des moments douloureux, à côté d'un homme qui restait particulièrement digne, décidé et vraiment droit dans les bottes, j'ai envie de dire, défiant même la maladie et en pensant bien entendu qu'il arriverait à pouvoir la vaincre. Malheureusement, au fur et à mesure que le temps a passé, il a été atteint au niveau de sa voix. Et ça a été la chose la plus...
Bien sûr.
La meurtrissure qu'il a dû ressentir le plus de douleur, puisque d'abord, un homme politique qui ne parle pas, ça commence à avoir une action très douloureuse. Et puis ensuite, bon, c'est un avocat. C'est l'organe essentiel.
D'ailleurs, c'était un habitué de cette émission Radio Barque.
Et absolument, voilà. Donc, si vous voulez, on a vécu cette année 23 à ses côtés, chacun dans ses prérogatives. J'étais en première vice-présidence, ce qui a fait qu'il a fallu que j'assure les conseils communautaires en ces lieux et places. Et je le sentais très malheureux de cette situation, bien entendu. Nous avons mené les opérations jusqu'aux alentours de l'été, où nous nous sommes rencontrés, d'ailleurs à mon domicile. Je l'ai invité à venir parler avec sa garde rapprochée, avec de mon côté mes collaborateurs, et nous avons évoqué, il tenait absolument à présider à nouveau, puisque la voie était revenue, un conseil communautaire après l'été, et nous avons évoqué la possibilité de le faire à la condition d'alléger l'ordre du jour, qui était à 85 ou 90 points, je crois, quelque chose comme ça, et nous avons négocié, entre guillemets, non seulement le partage en deux de l'ordre du jour, mais également le fait de faire un conseil le matin, car l'après-midi, oui, il avait ses traitements et il était assez fatigué. Et donc, ce fut son dernier conseil communautaire en septembre, de suite après cette résolution que nous avions prise. Et à partir de là, il est évident que s'est posé le problème du remplacement. Bertrand Malquier était tout désigné par sa position pour la ville de Narbonne. Encore fallait-il qu'il franchisse le pas pour l'agglo. Donc ça a été des discussions très ouvertes que nous avons pu avoir, car dans mon esprit, il faut d'abord que l'agglo continue à être dirigé par la ville-centre. Il en fut ainsi sous Bascou, et j'ai appuyé la chose, et il fallait absolument que ça continue aussi, et ne pas envisager même un intérim de 2 ans au profit du maire d'une commune moyenne ou autre.
Oui, pour donc, vous, c'est un must, absolument.
À défaut d'être un must, c'est la logique de la chose.
Oui, ou une logique, une
Narbonne,
cohérence. Une cohérence.
Narbonne, 50-60 000 habitants, l'agglo, 120 000, on est à la moitié de l'effectif, et on est sur un territoire qui est porteur des infrastructures principales. Mmh. Et qu'on le veuille ou non, l'expérience d'un élu sur Narbonne est un petit peu plus importante que celle d'une ville moyenne ou du souci que peut avoir un maire dans un village. Donc, il était absolument impératif que les deux soient réunis.
Voilà, donc Bertrand, ce qui est le cas, donc, bon...
Ce qui est le cas, les choses sont mises en place... presque automatiquement, en tout cas, Bertrand Malquier s'est organisé sur un plan personnel pour pouvoir prendre en charge ses deux fonctions. Au plan moral, il a une réussite en entreprise qui est parfaite avec son frère. Ils ont absolument monté une entreprise extraordinaire. Donc quand on est capable de gérer ses propres affaires comme ça, on peut prétendre venir gérer les affaires d'autrui. Donc c'est quand même rassurant pour tout le monde. Et puis, le fait de pouvoir enclenché sur Narbonne et enclenché sur l'agglo, lui a permis de prendre du recul par rapport à son métier, à sa profession.
Oui.
Son frère étant dans l'entreprise, il y va une fois par semaine superviser un petit peu
certaines
affaires,
se tenir au courant, pleinement
et il se consacre
double
pleinement,
tâche.
Exactement, qui est quand même très prenante, et il faut, comme vous le soulignez, être présent à tous les moments, à tous les instants. Mmh.
Alors Henri Martin, donc en tant que premier vice-président, forcément vous êtes au courant de ce qui se passe au niveau des dossiers et de l'avenir de ce Grand Narbonne. Alors justement, quels sont les dossiers pour le restant de ce mandat?
Mais le restant de ce mandat, c'est 2 ans. C'est, sur 2 ans, il y aura le vote d'un budget, et puis il y a les grandes orientations qui sont prévues en début de mandat au travers d'un plan pluriannuel. Aujourd'hui, sur le feu, sans métaphore, nous avons la grande rénovation de l'espace de liberté.
Oui, l'espace alors quand de vous liberté, dites sur le feu, c'est presque un jeu de mots.
Voilà.
Parce que le feu, on l'a vu quand même.
Je rappellerai simplement que l'espace de liberté, il a été ouvert en 1989, c'est-à-dire hier.
C'était pour le bicentenaire de la Révolution.
Absolument.
D'où la date.
Et le nom
Liberté.
Et il y a 34 ans. 34 ans, un bâtiment contemporain, où l'architecte s'est autorisé beaucoup de liberté dans les formes, dans la géométrie, dans le rôle d'accueil. Et il est évident que cette témérité architecturale a plus ou moins résisté aux affres du temps. Nous sommes en bord de mer, on a un climat qui est quand même assez corrosif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et là où hier il n'y avait pas de souci d'économie d'énergie, d'isolation, etc., on se retrouve avec une perméabilité en matière de déperdition énergétique qui fait
oui.
que...
Donc c'est lié au bâtiment lui-même.
Au bâtiment
rien
lui-même,
à voir avec la présence des grands buffets.
Il y a du métal, il y a du verre. Donc il y a une structure lumineuse d'accueil. Et puis, il y a les grands buffets qui, au départ, je le rappelle, étaient une cafétéria.
Mmh.
La cafétéria, avec toute la souplesse que ça peut représenter, peut tolérer à la fois un flux de consommateurs cafétéria, de gens qui vont se baigner et de gens qui vont faire du sport, du bowling ou autre. Aujourd'hui, les grands buffets sont montés de plusieurs crans en termes de restauration. C'est devenu un établissement particulièrement prestigieux. Et il est souhaitable également, donc par conséquent, de séparer les flux. Les personnes qui vont se baigner avec le sac sur le dos ne font pas tout à fait la même file d'attente que lorsqu'on se rend dans l'établissement en question.
De par le nouveau standing des grands buffets. Quoi.
En quelque sorte. Et puis bon, de par le timing horaire. Lorsqu'on est
aussi.
Tennis, mais bon, c'est pas tout à fait ce qu'attend le...
Donc c'est ce à quoi le Grand Narbonne s'est attaché.
Voilà. Donc, nous avons donc lancé une consultation, un marché de conception-réalisation, c'est-à-dire qui fait appel à la fois à l'entreprise et à l'architecte qui dessine le projet, avec un cahier des charges précis, qui prend en compte la remise aux normes techniques des bâtiments, le clos couvert, le second œuvre, les installations techniques qui également ont vieilli, la remise aux normes fonctionnelles de certains locaux, ou la création des créations indispensables au bon fonctionnement de la nouvelle structure qui, comme je le dis, a changé quand même un petit peu de direction. Enfin, par rapport au grand buffet que nous évoquions, il faut absolument séparer les flux entre les espaces privés des grands buffets et les espaces publics, patinoires, bowling, piscine. la piscine, certaines odeurs peuvent remonter par l'accès à mixité avec le restaurant. C'est quand même pas tout à fait souhaitable. Au niveau du restaurant également, ce qui est souhaitable de faire, c'est la séparation des équipements techniques pour que les grands buffets soient totalement autonomes en termes de chauffage, de ventilation, de climatisation et d'électricité. Donc, c'est un gros budget qui est engagé et concomitamment à l'engagement de ce budget sur la rénovation de l'espace de liberté, il y a eu une situation conflictuelle, larvée, qui s'est plus ou moins développée entre, justement, les responsables des grands buffets et la municipalité de Narbonne, la municipalité précédente, et le Grand Narbonne.
Que le public n'a pas forcément bien compris. Est-ce que vous pouvez, Henri Martin, l'expliquer ou clarifier certaines choses?
Ce sera difficile à clarifier, c'est l'histoire qui le clarifiera. Mais disons que d'un côté, on a affaire à quelqu'un qui a monté une très belle entreprise. Monsieur Privat est quelqu'un de très méritant, c'est quelqu'un de talentueux, qui est très imaginatif et qui a réussi à monter un outil extraordinairement prestigieux et qui fait redonner la réputation narbonnaise.
Ah oui, qui a placé Narbonne sur la carte de France des restaurants quand même.
Et voilà, à l'époque quand on parlait Narbonne, on parlait Spanghero en roulant les airs, on parlait rugby, etc. Aujourd'hui, les grands buffets sont un cran en dessus, ouais. et pourquoi pas, et tant mieux. Donc, si vous voulez, je crois que Monsieur Privat a rendu redevable la collectivité de tout un tas de choses. A-t-il eu raison, a-t-il eu tort? Les diverses collectivités gouvernances ont eu des attitudes plus ou moins aimables, cavalières avec lui, ont-ils eu raison ou tort? Peu importe. Je crois que du passé, maintenant, nous devons faire table rase et enfin avancer. J'ai été choisi par mes pairs du Grand Narbonne pour justement être l'ambassadeur de ce que nous souhaitions dorénavant au sujet des rapports entre les grands buffets et le Grand Narbonne.
Donc vous êtes l'interlocuteur privilégié?
Privilégié, je ne sais pas, mais je suis quelqu'un de plein de bonne volonté, donc qui est devant quelqu'un de surdimensionné en termes de capacité professionnelle et qui faut un petit peu avec qui il faut négocier. Mmh. Et les séances d'entretien durent parfois 2 heures, 3 heures, il est pugnace.
Dur en affaires, comme on dit.
Plus que dur, c'est au-dessus de ça. Mais bon, il a quand même aussi la notion de niveau d'interlocuteur et il sait très bien que, étant représentant de pouvoir politique, on ne peut pas faire n'importe quoi et dire n'importe quoi.
Oui, voilà. Mais quant au... Alors, le départ hypothétique des grands buffets, est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste?
Si on devait choisir au milieu du fléau de la balance, je dirais qu'actuellement, la tendance serait au non-départ des grands buffets.
Voilà, on marque une première pause pour laisser l'auditeur réfléchir sur cette notion-là.